RMC, les grandes gueules.
Parce que ce sont les infos de BFM TV concernant ces conditions de détention. Et alors, Mohamed Amra, en cellule, il était comme au bureau, il gérait son business.
Oui, et contrairement à ce qu'on nous a raconté au début en disant « c'est pas un gros bonnet, c'est une petite frappe, pourquoi l'ont-ils fait évader ?» Ben, on s'aperçoit, selon les informations de BFM TV, et en fonction des conditions de détention de l'homme qui est aujourd'hui le plus recherché de France, que Mohamed Amra, c'était un gros poisson, c'était quelqu'un qui était à la tête d'un clan et qui gérait ses affaires depuis sa cellule. Pourquoi il gérait ses affaires depuis sa cellule ? Parce que déjà, il avait beaucoup de portables sur lui. Il se faisait livrer régulièrement par des jeteurs, hein, les gens qui jettent par-dessus le mur, des portables, des cartes SIM et aussi de la drogue pour sa propre consommation. Il disposait d'une chicha d'ailleurs pour égayer ses soirées d'été. Le tout visiblement permis par des surveillants de prison. Des portables qui lui servaient aussi à surfer sur des sites de rencontres, nous dit-on, et à appeler ses contacts donc en utilisant les messageries cryptées telles que Signal. Il pouvait ainsi solliciter ses subordonnés pour donner des ordres sur l'organisation de son trafic de drogue, la gestion des points de deal, désigné également sous le vocable de terrain dans le jargon des trafiquants. Donc quand c'était terrain, c'était en fait point de deal. Toujours abrité derrière les murs de sa prison, il organisait aussi des carottages, des vols de transport de drogue au préjudice d'autres équipes de trafiquants. Il est soupçonné d'avoir aussi commandité l'enlèvement d'un homme assorti d'une demande de rançon en Seine-Maritime. Tout ça depuis sa propre cellule. On apprend également que sa sœur était sa complice. D'ailleurs, parfois, c'est sa petite copine qui se faisait passer pour sa sœur au parloir.
Grâce à la carte d'identité
voilà,
de sa sœur.
Il suffisait simplement d'avoir une carte d'identité falsifiée. Et donc, la petite copine se retrouve au parloir avec son petit copain. On pensait que c'était sa sœur. Alors, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on nous explique également qu'il était sur écoute. C'est-à-dire que les forces de l'ordre écoutaient Amra parce que justement, il avait sans doute des choses à apprendre. Alors, il y a un vrai questionnement et on n'a pas la réponse. C'est comment ça se fait que quelqu'un qui était sous étroite surveillance, finalement, a pu s'échapper, a pu s'évader, a pu organiser son évasion. Là, il y a un truc qui ne va pas et on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que ces conditions de détention surprennent.
Qu'est-ce que vous en pensez, Barbara?
D'autant qu'il y a 6 mois, il cherchait à se procurer des armes de guerre,
oui,
notamment des fusils, tels que les fusils d'assaut qui ont servi à l'exfiltrer de la camionnette. Bah écoutez, moi, je vais
6 000 euros pièce, hein, le fusil d'assaut.
Oui, bah écoutez, la description de sur le ton badin, effectivement, que l'on peut faire, parce que on se dit que c'est presque un film comique, on se dit que c'est un film d'Audiard même. D'accord. Sauf que Momo la mouche,
plutôt la septième compagnie.
Ouais, hein. Momo la mouche, il est pas tellement drôle et je crains surtout que des Momo, il y en ait beaucoup au moment où on se parle. Il y en a peut-être d'ailleurs qui nous écoutent dans leur cellule. C'est-à-dire enfin je crois pas qu'ils écoutent les grandes gueules, vous me direz, ils sont occupés justement à passer leur coup de fil pour continuer leurs actions criminelles. Moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que nos services pénitentiaires, les petits fonctionnaires des services pénitentiaires, ça fait 25 ans qu'ils le disent, ça ne va pas dans les prisons. Nos prisons se dégradent, on n'a pas les moyens de travailler, on n'a pas le personnel pour gérer l'ensemble des délinquants que nous avons, qui sont de plus en plus dangereux, qui multiplient en plus les connexions criminelles, parce que, excusez-moi, ça fait de la drogue, mais en même temps, ça fait des armes. Et les armes, parfois, vous les retrouvez sur des attentats. Et je suis désolée, rappelez-vous, le Bataclan, les Kouachi, les Koulibaly, c'était aussi avant des délinquants. Et ensuite, vous les retrouvez sur des attentats djihadistes. Donc, moi, je crois vraiment que là, on a l'explosion d'une réalité que depuis 25 ans, les services pénitentiaires, les gens de terrain, comme d'habitude, les petits fonctionnaires de terrain, criaient dans le désert depuis 25 ans. Donc là, ce qu'on nous raconte, je crains que ce ne soit le quotidien et la banalité de ce qui se passe dans nos prisons. Et donc ce personnage s'avère être finalement, je ne sais même pas si c'est un gros bonnet, je vais te dire, je crois
en tout cas, c'était
le pire,
un chef
c'est
de
qu'il
clan.
Y en a beaucoup des comme ça.
Oui, peut-être.
La famille m'a l'air encore pas piqué des hannetons. Hein. Je rappelle que la maman, ah là là, elle ne comprenait rien. Hein. Son fils, aucun problème, alors qu'on apprend maintenant que depuis 11 ans, c'est une terreur et excusez-moi du terme, il emmerdait déjà le monde à l'école. Ben non, elle avait rien vu. La sœur, pareil. La petite copine, l'autre qui va sur des sites de rencontres. Moi, je vais vous dire, c'est effrayant le monde et l'univers mental dans lequel baignent ces gens. C'est une autre société, c'est un autre monde et on a sacrément du souci à se faire.
Alors c'était aussi, il avait un nombre de surnoms parce qu'on a beaucoup parlé de la mouche, mais aussi la chemou, Moa, Momo, Moumouche. Oui, encore Yannis, c'est quand il était plus jeune, son père l'appelait Schtroumpf.
Ouais, bien sûr.
Fred,
Je crois que c'est l'échec d'une institution en fait. C'est-à-dire c'est ça qu'en fait que l'on voit. C'est-à-dire que mettre les gens en prison, on pense que ça règle le problème. Non, ça ne le règle pas, ça l'amplifie. Donc on peut continuer à mettre des tas de gens en prison, mais ça ne va pas régler le problème, puisque visiblement la prison n'est que l'annexe de l'activité extérieure, donc c'est un prolongement, donc croire que la prison, ça règle, ça réinsère, ou je sais pas quoi, enfin on peut en discuter, mais en tout cas ce n'est pas ça. Et puis même on peut augmenter les peines de prison, les laisser plus longtemps encore, c'est pas ça non plus la réponse, puisque tout continue, et c'est l'échec d'une institution, c'est-à-dire que, de toutes les façons, l'institution pénitentiaire n'a ni les moyens, n'a pas les moyens de travailler avec des personnels, bon, qui sont à bout de souffle. Donc je crois que on assiste à quelque chose qui est assez banal et qui est à l'œuvre depuis longtemps, c'est-à-dire la criminalisation aussi de la prison elle-même.
Sauf que banal, mais il y a eu des morts d'hommes.
Enfin, oui,
je
voilà.
Je rappelle quand même que des gens sont morts. Et il y a parallèlement cette semaine dans Paris Match le témoignage d'une des veuves, hein, la femme d'Arnaud Garcia qui est enceinte.
Oui.
Et donc en fait. Le fait qu'on laisse cet homme pouvoir s'équiper notamment d'armes automatiques aboutit aussi à la mort de deux hommes.
Oui, mais moi le plus triste, et je pense juste un dernier mot, c'est qu'une fois que on le retrouvera, on a retrouvé d'autres, on le retrouvera à un moment donné ou à un autre avec ses complices, tout le monde dira plus jamais ça, plus jamais ça, c'est promis, c'est juré. Six mois, un an après, il y aura la même affaire avec d'autres agents pénitentiaires qui vont peut-être pas mourir, mais qui vont être malmenés.
Moi, je crois que vous faites des analyses trop politiques. Moi, je crois simplement qu'il se laisse se développer en France ce qu'on appelle une mafia, c'est-à-dire on est tout à fait, alors c'est d'une banalité incroyable quand on parle mafia ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que énormément de fonctionnaires sont corrompus parce que c'est une des éléments, des paramètres qu'entraîne la mafia. Il y a une organisation avec beaucoup d'argent et donc c'est un truc, ça ne fait rien du tout, 6 000, 10 000, 20 000, 100 000, c'est rien du tout. Il y a une véritable organisation, je crois qu'on est à côté, c'est-à-dire que quand on est en train de parler de délinquance, on n'est pas dans la délinquance, on est dans une organisation mafieuse. Et dans cette organisation mafieuse, comme ça a été décrit depuis 1930 aux États-Unis, on a tout quelque chose qui se met en place, qu'on connaît très bien, qui est par exemple les produits de plus en plus dégueulasses, la naissance de mafias qui se battent entre elles, la naissance de corruption systématique de fonctionnaires, etc., etc., qui entraîne, et en fait le fait qu'il soit en prison et qu'il ait ce pouvoir, mais on le retrouve dans 100% des affaires mafieuses. C'est-à-dire, il n'y a pas un mafieux au monde qui, quand il est en prison, arrête de travailler avec l'extérieur. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on est... Et le fait qu'il ait des téléphones, et ça, c'est parce qu'on lui donne. C'est parce qu'en prison, on lui donne, parce qu'il y a des gens pour lui donner. Donc, on est dans un système, en fait, il faut faire un nettoyage total. Il faut arrêter de raconter des conneries. C'est pas cette espèce de connard qui est un mec surdoué. C'est juste qu'il a du fric et qui paye tout le monde et qu'il a une organisation derrière qui peut payer tout le monde. Donc je pense que ça arrive jusqu'à, je pense, ce que personne n'avait prévu, c'est-à-dire la mort de ces deux pauvres garçons qui travaillaient, et je pense que ça va peut-être être un traumatisme pour tout le monde, mais ce qu'il faut empêcher, c'est l'organisation de mafia dans un pays comme la France. On n'est pas en Argentine.
Sauf qu'on est de plus en plus, ça ressemble au Mexique, hein, pardon.
Ah oui, c'est passé. Bien sûr.
Là, mais il faut que le garde des Sceaux réponde à ces affirmations, cette enquête journalistique. C'est-à-dire que maintenant, on attend du Dupond-Moretti une réponse.
Surtout, en fait, aujourd'hui, pour qui la vie est-elle dure dans les prisons? Bah, pour les personnels du service pénitentiaire. En fait, c'est eux qui triment toute la journée, qui vivent dans des conditions insupportables. Mais finalement, les prisonniers, alors je ne parle pas évidemment de certains prisonniers qui n'ont même pas de quoi dormir et qui subissent surtout apparemment le comportement terrifiant de ce genre de personnes, parce qu'en plus, il s'avère, d'après les écoutes qui ont été faites, que ce type est d'une ultra-violence, même vis-à-vis de son petit personnel, il est menaçant, il menace les familles, il menace...
Un mafieux.
Mais apparemment, c'est vraiment une crapule sans nom, qui n'a plus aucun filtre et aucun sentiment de base de compassion et d'empathie.
Oui, mais...
Donc vraiment, le personnage est un vrai psychopathe en plus, excusez-moi.
Il y a quand même une chose, c'est parce que... Les informations de BFM TV de Stéphane Selami, que l'on salue, bravo pour ces informations, nous disent quand même que ce sont des écoutes. D'accord ? On a eu accès aux écoutes. Ce qui veut donc dire que Mohamed Amra, il était.
C'est ça qui est incompréhensible.
Sur écoute.
Donc, s'il est sur écoute, comment on le laisse s'évader ?
S'il est sur écoute.
Mais parce que c'est non, pas
attends,
le même téléphone.
S'il est sur
tu
écoute.
Tu mets sur écoute un téléphone, t'en mets pas 36.
Ouais, mais s'il est sur écoute et qu'on s'aperçoit de tout ce qu'il fait, soit on dit au personnel pénitentiaire. Dans le cadre de la procédure et de l'enquête, les gars, foutez-lui la paix, parce qu'on veut savoir quelle est l'ampleur de son trafic, avec qui il est en contact, qui sont ses ennemis, quelle est l'ampleur de son gang, puisqu'on dit qu'il a un gang, et auquel cas les policiers à un moment l'ont raté, puisqu'on n'était pas au courant de la dangerosité. Ou alors à un moment, il faut dire, ils auraient dû dire stop, on lui enlève tout, on le met à l'isolement parce que le gars est ultra dangereux. Et on a affaire à une bête terrible qui continue, alors qu'il est en prison pour protéger la société.
Surtout,
là, il est en prison et il continue son trafic. Donc, il y a un truc qui colle pas, là, dans l'enquête.
Mais moi, je pense qu'effectivement, là, il y a la question des écoutes, c'est la part d'ombre. On ne sait pas à quoi elles sont servies, pourquoi.
C'est ça.
Mais
derrière ça. Là, ça demande aussi des explications, du garde des Sceaux ou du ministre.
Mais là, je pense que ça aussi, ça fait écho au moment où il y a eu la mort de ces deux gardiens. Il y a eu un rapport qui est tombé pour dire que la France était en train de perdre la bataille contre...
Ce sont des magistrats qui l'ont dit, même. Voilà. Il y a eu le rapport parlementaire.
Et qui disait qu'effectivement, les caïds continuaient leur affaire et que l'État...
Voilà. Donc ça, c'est une illustration supplémentaire du rapport.
Et le garde des Sceaux s'est dépêché de condamner les propos de ces magistrats à l'époque, n'est-ce pas, en disant « mais des magistrats n'ont pas à s'exprimer ainsi, ce qu'ils racontent, c'est pas exactement la vérité ». Résultat, un mois après, le garde des Sceaux a été obligé de faire machine arrière et de reconnaître que la situation... Non mais aussi, juste une dernière chose, ce qui est intéressant, c'est que si ce type-là, on l'écoutait, etc., alors peut-être que ça valait le coup de faire les auditions en visio, alors, plutôt que de l'extraire pour aller voir le juge.
Barbara. Ce qui est marrant, c'est la réponse de Darmanin à la question de la drogue, c'est-à-dire en pilonnant les points de deal, dont on sait que ça n'a aucun effet. D'ailleurs, la drogue, le cannabis n'a pas augmenté d'un centime. Hein. Il n'est pas plus cher parce qu'il y a des points de deal qui sont, ils continuent de s'en vendre autant. Je connais personne n'arrête de fumer du cannabis. Alors malheureusement, les jeunes n'en fument plus, ils vont vers des drogues beaucoup plus dangereuses. Mais ça, c'est le problème de Darmanin. Mais faut pas se leurrer. Les mafieux comme ce type-là, ça s'adapteront aux nouvelles drogues.
Hein. On va aller dans les Vosges. J'en parlais avec Karim qui est commercial. Bonjour Karim.
Bonjour à tous.
Comment vous avez réagi en entendant ces infos là sur Mohamed Amra? Alors les écoutes.
J'ai des bouffées de chaleur. Ça me fait bondir. C'est inhumain ce qui se passe. On est en train de parler d'un voyou, d'un gros voyou,
qui
depuis sa cellule arrive à gérer son business comme si de rien n'était. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment la plus grosse.
Ah, Karim, attention, on vous entend plus là. Attention, si vous êtes en train de vous déplacer, essayez de
là,
revenir.
Vous m'entendez.
Ouais, là, on vous entend. Ça va à peu près. Allez-y, Karim. Non, désolé, là, on vous entend pas bien, Karim. On va essayer de vous rappeler et de vous reprendre juste après la pause. Donc, vous avez entendu Mohamed Amra, ses conditions en détention, la manière dont il continue de mener son business. C'est vrai qu'on attend des réponses maintenant du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur, puisque ce sont des écoutes. On essaie de savoir, visiblement, comment se comporter Mohamed Amra.
Alors donc on est passé à côté de son projet d'évasion. Pas le bon téléphone.
Il n'y a pas le bon téléphone.
Peut-être pas le bon téléphone.
Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura
pas la bonne mesure du gars.
Mais comment on sait? Non. Mais comment on sait que c'était au mois de novembre 2022. Hein, donc c'était un petit moment.
6 mois.
Voilà. Qu'il cherchait à se procurer des armes. Donc ça on le sait grâce aux écoutes. Donc il y a des armes de guerre et ce sont les armes similaires à celles qui ont été utilisées par les membres du commando qui l'ont fait évader.
Ça va pas lui prendre 2 minutes de se les procurer.
Moi je pense que ça mérite une enquête, une commission d'enquête. Je suis désolé, il faut une enquête au sein de la prison. Il faut que Darmanin et Dupond-Moretti s'expliquent. Peut-être devant une commission d'enquête parlementaire, parce que là, c'est quand même très grave.
Parce qu'il
y a eu des morts,
il y a
deux agents pénitentiaires qui ont perdu la vie.
Pour que les téléphones aient été mis sur écoute, c'est qu'il y a eu une instruction judiciaire. Donc, il y a un juge d'instruction, qui a donné les ordres. Donc, c'est plutôt, parce que monsieur Dupond-Moretti, le juge en question doit expliquer pourquoi il surveillait monsieur Amra et que donc on le laissait papoter en prison et surfer sur Tinder en même temps.
Karim, juste avec nous, avant la pause, Karim, ça y est, on
savait qu'il était sur écoute.
Allez-y. Oui, vous m'entendez bien?
Ça y est, c'est bon, allez-y.
Oui, donc je vous disais tout à l'heure, moi j'ai une grosse pensée en fait, c'est pour les surveillants pénitentiaires. En fait, moi ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est les surveillants pénitentiaires qui sont enfermés et en fait les détenus qui ont cette liberté totale d'avoir des téléphones, d'avoir des consoles, d'avoir des accès à des abonnements comme c'est pas permis. Si je me trompe pas, Je pense que le budget d'une prison pour une construction, c'est à peu près 300 millions. 300 millions d'euros. À quand est-ce qu'on va faire un Grenelle sur les prisons? Ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit qu'il faut construire des prisons. Mais ça rejoint le sujet qu'on avait dernièrement, je vous avais eu au téléphone, par rapport à la mort du petit, du jeune de 15 ans. Qui a été tué par les deux ados. On se rend compte que tout ça, ça se réunit en fait. S'il y a cette impunité dès le début, qu'est-ce que vous voulez qu'un un ado se dise bon bah il est un trafiquant, il a une liberté totale, il reçoit de la drogue, il a des téléphones comme c'est pas permis.
Ouais, mais faut pas tout mettre dans le panier.
Le parcours de Mohamed Amar, c'est ça.
Pas tout mettre dans le même panier parce que la vie dans les prisons, de toute façon, elle repose sur une seule chose, c'est le fait que les gens soient sous cacheton. Fait que les gens soient défoncés, parce que sinon personne vit en prison.
La discussion continue.
C'est pour ça que je dis qu'il faut pas tout mettre dans le même lot.
Avec vous au 32-16 dans les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules, Alain Marchal, Olivier Truchot.
Quelle heure est-il ? 9h25, les amis, dans 2 heures précisément, on fait tourner la roue dans les GG, dans les grandes gueules. Et j'espère que vous gagnerez les 20 000 euros. La semaine dernière, dans les grandes gueules, on avait gagné 10 000 euros. Là, j'espère qu'on va monter jusqu'à 20 000. Donc, dès que vous entendez le signal d'alarme, là. Vous savez que vous avez 5 minutes pour vous inscrire, m'envoyer roue par SMS au 732-16 et à 11h20, l'un d'entre vous tiré au sort passe dans les GG. Anaïs Sens, notre productrice, sera là avec la roue. On la fait tourner et j'ose espérer que vous aurez les 20 000 euros dans votre poche dans les heures qui suivent. Voilà pour la roue. Donc, dès que vous entendez le signal, roue par SMS au 732-16. On va reparler donc de Mohamed Amra avec les informations qui sont données par le service police-justice de BFM TV, par Stéphane Selmy. Donc, si vous voulez que je vous fasse un résumé rapide, Mohamed Amra en prison, c'est plusieurs téléphones portables, jusqu'à 9, la gestion du trafic de drogue. Il a même dirigé en vidéo, live, une action contre des concurrents. C'est-à-dire qu'en même temps que les gars opéraient, ils disaient « Non, là, ensuite tu vas à tel endroit, tu auras une voiture qui t'attendait ». Il faisait ça en simultané, en vidéo. Il a organisé effectivement des enlèvements et des séquestrations. Il cherchait à acheter des armes de guerre, fusils d'assaut à 6 000 euros pièce. Il se faisait livrer ses repas 24 heures sur 24 et il avait une petite chicha pour la distribution.
Mais ça veut dire que ça contredit. Contredit aussi le portrait qui est dessiné de Mohamed Amra, contredit ce qu'on disait au début en disant on comprend pas pourquoi un tel commando pour un type comme cela. On voit quand même que c'était quelqu'un qui était un mafieux, qui avait de l'argent, qui était un chef de clan, qui était capable de commanditer l'enlèvement de personnes, etc., demander des rançons, etc. Donc il avait les moyens effectivement d'organiser ce commando, d'acheter des armes. Et donc voilà, c'est une réponse. Parce qu'au début, on se dit, ah, mais c'est bizarre qu'un type comme ça. Ça veut dire aussi que finalement, on l'a sous-estimé ou on nous a raconté un peu des pipos.
Oui,
peut-être plutôt ça.
Oui, d'autant que.
Ah, oui, mais alors si on nous a raconté du pipo, excuse-moi, mais si on nous a raconté du pipo et qu'on a fait voyager ce mec dans un véhicule, une camionnette avec trois pauvres types et qu'ils se sont fait agresser,
on les a mis en danger.
Là, c'est très très grave.
Oui, parce qu'on les a mis en danger.
On les a mis en danger. Et c'est marrant parce qu'il y a eu au départ un premier détail qui a surgi. Il était en train de scier les barreaux de sa prison.
C'est pipo, ça.
Ça avait commencé comme ça. Et on a dit, c'est bizarre.
Je n'y crois pas une seule seconde.
Je sais pas pourquoi c'est sorti, ce truc-là, puis ça a disparu.
C'est une info d'ailleurs qui n'est plus reprise.
Donc, les magistrats qui sont en charge du suivi de ce personnage, parce que pour que les services pénitentiaires les laissaient avoir tout ça, tu vas pas me dire la chicha, le Deliveroo et compagnie, c'est des fonctionnaires corrompus qui ont fait
bien
ça. Ils ont eu l'ordre, peut-être, d'un juge en leur disant laissez-le Amra, on le surveille. Donc, si c'est une hypothèse, vraiment, parce que les magistrats ne rendent jamais de compte. Les magistrats ne rendent jamais de compte sur les ratés qui peuvent exister dans le suivi d'une affaire. Et je peux comprendre, ils ont peut-être 50 dossiers. Peut-être que le juge d'instruction, il en a 10 ou 15 ou 20 des Amra à surveiller. Non. Mais moi, je suis désolée. Il y a peut-être eu une faille et il va falloir qu'à un moment donné, le magistrat en charge s'explique.
La dernière fois qu'il y a eu une agression violente de ce type-là, c'était en 1980. 92, il y en a plus depuis. Mais ce que je te dis, c'est que c'est quand même pas une affaire courante. C'est une affaire exceptionnelle et c'est une affaire d'une gravité exceptionnelle. Et moi, je pense très sincèrement que peut-être les magistrats ont une responsabilité, mais je pense très sincèrement que c'est parce que quand on a du blé, quand on a beaucoup de pognon, on peut acheter absolument tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur.
Donc on peut se faire livrer 24 heures
et
sur 24.
On peut se faire livrer 24 sur 24. On peut avoir des téléphones, on peut avoir des entretiens avec des avocats marrons, on peut avoir des tas de choses comme ça. Faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Mais la sœur, la sœur qui se fait passer, la petite amie qui se fait passer pour la sœur au parloir, ça ne voit qu'une carte d'identité. C'est pas sérieux.
Mais pour aller dans ton sens, donc le repas arrive.
C'est une passoire.
Donc un surveillant prend la pizza. Sonne
Deliveroo
à la porte de Amra et dit
Monsieur Amra, c'est pour vous.
C'est la pizza.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait celui-là en sauce
fromage, c'est bien pour vous parce que j'en ai une dizaine. Là, je voudrais savoir pour la
répartition. Est-ce que je laisse un pourboire au livreur?
Est-ce que je laisse un pourboire? Est-ce que sauce piquante ou pas? Est-ce qu'il y a une boisson avec? Et ensuite.
C'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention de pas mélanger tout et qu'il faut bien se considérer que cette affaire est tout à fait gravissime et exceptionnel, et que des situations comme celle-là,
certainement
c'est
pas
l'évasion est exceptionnelle.
Exceptionnelle.
Oui, mais les conditions de vie de Amra,
c'est pas
exceptionnel.
C'est pas tout le monde qui a
un certain nombre de bonnets, de gros bonnets.
Des mafieux.
On les surveille comme ça. Oui, mais c'est que c'est, ils jouent quoi? Ils jouent les caïds dans la prison. Les petits les regardent. Ça veut dire que le petit qui vient d'arriver, qui a 19 ans, il le regarde lui faire. Il se dit oh la vache, le modèle.
Barbara, excuse-moi, mais Barbara, je te signale que 95% des films entre 1960 et 1980 étaient des films qui valorisaient ce genre de trucs, qui valorisaient les gars qui étaient de la mafia, qui avaient des téléphones en prison ou qui s'évadaient,
c'est
ou
pas
qui
moi
faisaient
qui,
voilà, c'est pas
Scarface
que...
et le parrain,
non mais
c'est
pas que, mais même avec les films de Belmondo, je veux dire, la starification des grands gangsters mafieux, c'est pas une chose nouvelle.
Regarde tous les gamins de banlieue qui se baladent avec Scarface, avec la tête de Al Pacino en Scarface.
Nabil est avec nous, il nous appelle de Gironde. Bonjour Nabil.
C'est modèle.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Ancien militaire, Nabil, votre fils est en prison.
Exactement. Mon fils est incarcéré, il a une vingtaine d'années, depuis à peu près 2 ans, depuis sa majorité, pour petit trafic de stupéfiants. Petit trafic, alors, je ne sais pas si on peut dire petit ou gros, mais bon, en tout cas, trafic de stupéfiants, point de deal, une fois, deux fois. Et moi, j'aimerais intervenir simplement dans votre émission pour vous dire que la fiction a largement dépassé la réalité dans les centres pénitentiaires. Arrêtons
c'est-à-dire...
de croire aux c'est-à-dire que c'est pas le monde de bisounours. Tout à l'heure, je vous entendais parler de corruption, corruption, corruption. Aujourd'hui, les gros détenus, les gros voyous qui sont en prison n'hésitent pas à faire suivre les agents de leur...
Oui, c'est ça. Ils sont menacés.
Mais bien sûr que oui. Ils n'habitent pas 600 kilomètres. Un gros voyou qui a les moyens et qui a sa petite équipe de mafieux, il faut dire les choses comme elles sont, va pas hésiter à poursuivre un gardien de prison, à prendre des photos, à lui montrer en lui disant on sait où t'habites et patati. C'est la même chose pour les nouveaux détenus. Quand ils arrivent en prison, ils n'ont pas de quoi cantiner. Ce qu'on appelle la cantine, c'est pour acheter du shampoing ou autre. Vous avez les gros voyous et les petits malins qui sont là depuis pas mal de temps, qui connaissent le circuit, qui vont aller leur dire « Bon ben voilà, on va te donner un paquet de cigarettes par exemple pour te dépanner, tu nous rembourses. Le paquet de cigarettes en prison coûte 50 euros. »
C'est ça.
Et puis c'est un effet, et ensuite une fois qu'ils ont des dettes de 300, 400, 500 euros, ces petits jeunes, je vous en parle en connaissance de cause, ils se retrouvent dans un engrenage verrouillé, coincé, et même à la sortie de prison pour pouvoir rembourser des dettes qu'ils ont eues en prison.
Exact.
C'est un écosystème, la réalité dépasse vraiment la fiction.
C'est un monde à part. Ça veut dire que, Nabil, ça veut dire que... votre fils qui est incarcéré, on parvient à lui faire passer des choses, vous pouvez arriver à lui faire passer des choses.
Alors moi c'est pas compliqué, vous savez, je ne lui fais passer rien du tout puisque je ne veux pas le voir.
D'accord.
Voilà. Okay. Voilà, comme ça c'est clair.
Vous êtes en rupture avec lui?
Ah, je suis complètement en rupture. Il m'appelle de temps en temps, j'essaie de le motiver ou quoi que ce soit quand il peut m'appeler.
Il a quel âge?
Il a 21 ans.
Il est jeune. Il a fait quoi?
Ah oui,
sans trop d'inscription. Trafic de drogue.
Et oui, point de deal, une fois, deux fois, trois fois, quoi. Voilà.
Et vous pensez que ça va lui servir de leçon, enfin qu'il va essayer.
Mais jamais de la vie. Si vous regardez les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, ils arrivent à se filmer en train de faire du sport, en train de fumer des chichas, en train de s'éclater.
Donc il vit pas ça comme un enfer, quoi.
Bah,
Si, parce qu'il ne peut pas sortir, bien évidemment.
Il y a
une
privation de liberté, oui.
Il y a la privation de liberté, mais derrière, qu'est-ce qu'ils apprennent?
Et est-ce que votre fils, il prend des antidépresseurs ou des trucs comme ça, ou est-ce que c'est juste le cannabis, ou est-ce qu'il prend des trucs?
C'est juste le cannabis.
Il est dans un processus de réinsertion, une formation, une...
Même pas.
Donc on ne prépare pas spécialement la sortie.
Alors attendez, parce que Nabil, j'ai un surveillant de prison qui vient d'arriver.
Merci Nabil.
Qui est au 32-16 avec nous. Bonjour oui. Corentin.
Oui, bonjour.
Comment avez-vous réagi en entendant les conditions de détention de Mohamed Amra?
En fait, moi j'en ai un peu ras-le-bol depuis la mort de mes collègues. Qu'on parle de conditions de détention plutôt que de parler des conditions de travail, en fait.
C'est-à-dire ?
Non, mais bien sûr. Mais justement,
les deux sont liés.
Oui, ben, j'ai bien l'impression qu'en fait, les deux vont ensemble, mais on met le comment ? On met la lumière que sur une chose, quoi, en fait.
On dit justement qu'on est scandalisé par ce qui s'est passé
pour Mohamed Amra.
Ces conditions de détention révèlent vos conditions de travail lamentables.
Ce serait bien de le dire un peu plus.
C'est ce qu'on a dit dès le début.
Corentin, on voudrait savoir quelle est la part de corruption qui peut exister dans votre profession, et puis aussi la part de menace. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait une pression aussi sur les agents pénitentiaires, des menaces peut-être sur eux, pour leur famille. Racontez-nous.
Sur la partie corruption, faut pas cacher qu'il y en a. Après, faut pas non plus faire une généralité. Bien sûr. De dire que tous les surveillants sont corrompus, c'est faux. Il y en a, ça existe, comme partout, comme vous avez Barbara Lefebvre, je pense, comme dans l'éducation nationale.
Comme dans la police, mais pas corrompue, Barbara.
À l'éducation nationale, vous savez, on nous glisse rarement des petits billets. Pourquoi?
Voilà, il doit y en avoir.
Corentin, je voudrais comprendre. Comment se fait-il que Mohamed Amra ait pu bénéficier de tout ça, et pu continuer de mener son business dans sa cellule? Est-ce qu'à votre avis, les policiers l'avaient mis sous surveillance et avaient donné des consignes en disant « on l'écoute, laissez-le faire » ou est-ce qu'il a vraiment berné tout le monde alors ?
Alors non, c'est pas forcément je suis pas d'accord du tout pour dire que c'est les surveillants qui laissent faire. C'est par exemple quand vous arrivez le matin pour prendre votre appel. Alors c'est un exemple, hein, les chiffres sont peut-être pas bons, mais l'exemple est bon. Vous devez avoir 50 surveillants pour faire tourner votre établissement. Vous arrivez à l'appel, vous êtes à moins 15 agents. Vous allez m'expliquer comment vous faites pour faire toutes les tâches de la journée. Donc il y a des choses dont vous êtes
Je vous repose ma question différemment. Est-ce que de temps en temps, on vous dit, vous avez des consignes en vous disant fermez les yeux sur ce détenu parce que la police mène son enquête, il est écouté et autres. Est-ce que ça peut arriver, ça, dans le cadre d'une procédure judiciaire?
Alors, les consignes, on les a pas forcément directement, mais moi je sais, parce que je parle d'expérience, hein, j'ai déjà eu le cas, trouver un téléphone portable dans la cellule et le chef de bâtiment me dit tu vas le remettre parce qu'il est sur écoute.
D'accord.
Moi j'ai dit il est hors de question que je remette un téléphone portable dans une cellule parce que j'ai ma conscience professionnelle, j'ai mon professionnalisme, etc.
Vous avez une conscience professionnelle, mais je sais, parce que je travaille aussi en prison, que parfois, quand par exemple il y a 6 téléphones portables dans une cellule, comme c'était le cas chez ce gars-là, il y a un laisser-aller de la part des professionnels. Et effectivement, c'est pas toujours de la corruption.
La retour,
hein.
Merci à Corentin, le surveillant pénitentiaire, de nous avoir donné des indications. Vous entendez, c'est le signal d'alarme. Je vous rappelle, c'est dans les grandes gueules tout à l'heure. On fait tourner la roue. Potentiellement, vous pouvez gagner 20 000 euros. Les gains vont de 100 euros jusqu'à 20 000 euros. 10 000 euros gagnés la semaine dernière dans les GG, dans les grandes gueules. Donc, il est temps, vous avez 5 minutes. Hein. Pour m'envoyer roue par SMS au 732-16. 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. R-O-U-E. À vous de jouer, à vous de gagner et de passer en direct et tenter votre chance tout à l'heure à 11h20. Donc, je vous laisse faire, les amis. On a posé la question à propos de Mohamed Amra, justement, sur ses conditions de détention. Là, on a quand même... On est choqués tous, là on est face à un scandale. Les conditions scandaleuses, est-ce qu'il y a du laxisme? Bon, oui, 95,6%
c'est stalinien.
95,6% des autorités. Le résultat, la question est posée.
Poutine
comme ça.
Aurait aimé avoir ce résultat.
Après, Staline. Il l'a eu d'ailleurs, hein, il l'a eu. On verra, parce que là maintenant, on a quand même envie de savoir quel est le scénario autour de ces écoutes de Mohamed Amra. C'est ça qu'on aimerait savoir.